3 heures après le lever du soleil, le son d'un cor annonça l'approche de l'ennemi. Les batteurs d'estrade rentrèrent à Gamouel et bientôt, de même qu'à l'attaque précédente, les défenseurs du hall se firent invisibles. Le corps ennemi avançait lentement et il était facile de juger, d'après l'étendue qu'occupait sa marche, qu'il se composait réellement de 200 à 300 hommes. Les cavaliers se réunirent au pied de la colline qu'il était nécessaire de monter avant d'apercevoir Gamouel, et après un conciliabule de quelques minutes, la troupe se divisa en 4 parties. La première s'élança au galop sur la colline, la seconde mit pied à terre et suivit les cavaliers, la troisième tourna la colline du côté gauche et la dernière se dirigea vers la droite. Cette manœuvre qui avait été prévue fut contrecarrée. Des défenses avaient été construites au pied des arbres qui croissent sur le sommet de la colline et les interstices de ces arbres étaient remplis de broussailles et d'arbrisseaux si naturellement entrelacés que les soldats se félicitaient de la rencontre d'un abri auprès duquel il allait leur être loisible de se réunir une fois qu'ils auraient atteint le sommet de la colline. En approchant de ces arbres protecteurs, les Normands reçurent une volée de coups de flèche qui, tout en blessant les hommes, fit cabrer les chevaux, jeta la confusion parmi les soldats et contraignit la troupe à descendre la colline plus rapidement qu'elle ne l'avait montée. Les hommes envoyés aux côtés opposés de la colline furent accueillis d'une manière aussi désastreuse que l'avaient été leurs compagnons. En conséquence, il fut décidé que la marche, devenue impossible avec des chevaux, aurait lieu à pied. Les soldats abandonnèrent leurs montures et, protégés par leurs boucliers, ils s'engagèrent résolument dans les 3 chemins désignés par leur chef, tandis qu'une partie de la troupe, mise en réserve, dut attendre au bas de la colline le succès d'une première attaque contre les barrières. Les Normands atteignirent rapidement la barrière qui, d'une hauteur de 7 pieds, était de distance en distance percée de meurtrières pour le passage des flèches. Au lieu de perdre un temps précieux à frapper des ennemis à l'abri de leurs coups, ils se mirent à escalader le rempart. Les villageois n'essayèrent pas d'opposer une résistance inutile. Ils se contentèrent de gagner la seconde barrière. Les Normands, surexcités par ce premier succès, se précipitèrent confusément à la suite des villageois et attaquèrent la nouvelle barricade avec une indicible fureur. Pendant un instant, les 2 parties luttèrent presque corps à corps. La bataille devenait sanglante lorsqu'un signal appela les Saxons et les rejeta sous l'abri d'une 3e barrière. Cette retraite fit alors apercevoir aux Normands qu'ils perdaient à chaque instant le terrain gagné. Le capitaine réunit ses hommes afin de se concerter avec eux sur un plan d'attaque et tout en écoutant leurs avis, il regardait attentivement autour de lui. Gamouel se trouvait placé au centre d'une vaste plaine et la colline qui en quelque sorte lui servait de rempart était à la fois un chemin impraticable pour les chevaux et dangereux pour les hommes. Le capitaine demanda à ses gens s'il se trouvait parmi eux un garçon qui connût la localité. Cette question du capitaine, répétée de bouche en bouche, amena devant lui un paysan qui prétendit connaître le village de Gamouel où il avait un parent. « Es-tu saxon, coquin ?» demanda le chef en fronçant les sourcils. « Non, capitaine, je suis normand. »« Ton parent est-il allié avec ces rebelles ?»«
Oui, capitaine, car il est saxon. » »«
Comment est-il ton parent, alors ?»«
Parce qu'il a épousé ma belle-sœur. » »«
Tu connais le village ?»«
Oui, capitaine. » »«
Pourrais-tu conduire mes hommes à Gamouel par un autre chemin que celui-ci ?»
Oui, il y a au pied de la colline un sentier qui mène directement au hall de Gamouel.
Au hall de Gamouel ? Interrogea le chef. Où se trouve-t-il situé ?
Là-bas, à votre gauche, capitaine. C'est ce grand bâtiment entouré d'arbres. Il est habité par Sir Guy.
Le vieux rebelle que nous attaquons ?
Ma foi, le roi Henri aurait pu me donner une tâche plus facile que celle de faire sortir ce chien saxon de son chenil.
« Maintenant, coquin, puis-je me fier à toi ?»«
Oui, capitaine, et si vous suivez mes indications, vous verrez que je n'ai point menti. »«
Je le désire pour tes oreilles, » répondit le capitaine d'un ton menaçant.
« Je vous ai déjà rendu service, » reprit l'homme, « en vous guidant jusqu'ici. »«
Sans doute, mais pour quelle raison ne m'as-tu pas d'abord indiqué ce chemin ?»
parce que les Saxons se seraient aperçus du mouvement de la troupe et auraient pris des précautions pour arrêter sa marche. Il est possible à une poignée de braves de protéger ce sentier contre un millier d'hommes. « Il est situé, dis-tu, au pied de la colline ?» demanda encore le chef. « Oui, capitaine, sur la lisière de la forêt. » Celui-ci, très enchanté du renseignement, ordonna à une partie de sa troupe de se disposer à suivre le guide, tandis que lui, afin d'occuper sur un autre point l'attention des Saxons, allait commencer une nouvelle attaque. Les projets du capitaine devaient être déjoués. Le beau-frère du guide, qui, en effet, faisait partie des défenseurs de Sir Guy, reconnut son parent et, en le désignant à Petit-Jean, il lui fit remarquer l'espèce de conciliabule qui avait lieu entre lui et le chef. Petit-Jean pressentit aussitôt la trahison du paysan. Il appela une trentaine d'hommes et, sous le commandement d'un de ses cousins, il les envoya surveiller l'approche du chemin menacé d'invasion. Ce soin pris, Petit-Jean fit appeler Robin Hood. « Mon cher ami, lui dit-il, pourriez-vous atteindre, avec votre arc, un objet quelconque placé sur la colline ?»«
Je le crois, répondit modestement le jeune homme.
« Ou, pour mieux dire, vous en êtes certain, reprit Petit-Jean. « Eh bien, suivez mon regard. Voyez-vous cet homme placé à la gauche du soldat qui porte sur sa tête un grand panache ? Cet homme, mon cher ami, est un perfide coquin et je suis convaincu qu'il donne au chef des indications pour lui faire gagner Gamouel par le chemin de la forêt. Tâchez donc de tuer ce misérable. »
Volontiers.
Robin tendit son arc et 2 secondes après, l'homme désigné par Petit-Jean fit un bond de douleur, jeta un cri et tomba pour ne plus se relever. Robin tendit son arc et 2 secondes après, l'homme désigné par Petit-Jean fit un bond de douleur, jeta un cri et tomba pour ne plus se relever. Le chef normand rassembla promptement ses hommes et se détermina à prendre les barrières d'assaut. Les Saxons se défendirent bravement, mais, inférieurs en nombre, ils ne purent empêcher l'escalade et se retirèrent avec ordre dans la direction de Gamouel. Les barrières franchies, les Normands gagnèrent facilement du terrain. Ils pénétrèrent dans le village et une sorte de terreur panique s'empara des paysans. Ils allaient fuir lorsqu'une voix éclatante cria à plein poumon « Saxons, arrêtez-vous! Celui qui a du cœur suivra son chef! En avant! En avant !» Cette voix, qui était celle de Petit-Jean, ranima les forces défaillantes des villageois épouvantés. Ils se retournèrent et, honteux de leur faiblesse, ils suivirent leur chef. Celui-ci se précipita comme un lion vers un homme de haute taille qui partageait avec le chef principal le commandement de la troupe et qui, par l'ardeur de ses coups, avait causé l'effroi de ses hommes. À la vue de Petit-Jean, qui s'avançait vers lui en courbant comme de flexibles roseaux les soldats qui tentaient de s'opposer à son passage, l'homme dont nous parlons s'arma d'une hache et s'élança à sa rencontre. « Nous voici enfin en présence, maître forestier !» cria cet homme, qui n'était autre que Geoffroy. « Je vais me venger d'un seul coup de tout le mal que tu m'as fait !» Petit-Jean sourit dédaigneusement, et lorsque Geoffroy, après avoir fait tournoyer sa hache, tenta de la faire descendre sur la tête du jeune homme, celui-ci, d'un geste prompt comme la pensée, la lui arracha d'entre les mains et la lança à 20 pas de lui. « Tu es un misérable coquin, dit Petit-Jean, et tu mérites la mort. Mais, une fois encore, j'ai pitié de toi. Défends ta vie. » Les deux hommes, ou pour mieux dire les deux géants, car Geoffroy le Fort, on doit s'en souvenir, était d'une taille aussi remarquable que celle de Petit-Jean, commencèrent ce terrible combat. Il fut de longue durée et la victoire, restée longtemps incertaine, se décida tout à coup en faveur de Petit-Jean qui, concentrant toute sa vigueur dans un suprême effort, asséna un coup de son épée sur l'épaule de Geoffroy et lui fendit le corps jusqu'à l'échine. Le vaincu tomba sans pousser un cri et les deux camps rivaux, qui avaient assisté en silence à cet étrange combat, regardaient avec une stupeur mêlée d'épouvante la terrible blessure produite par ce coup mortel. Petit-Jean ne s'arrêta pas devant le corps de son ennemi. Il leva d'une main ferme son épée sanglante au-dessus de sa tête et traversa les rangs normands, semblable aux dieux de la guerre, de la dévastation et de la mort. Arrivé sur une éminence, le jeune homme porta ses regards en arrière. Il vit alors que, entourés par les Normands, les vassaux, malgré tout leur courage, étaient dans l'impossibilité de se défendre. Aussitôt, le jeune homme sonna du cor et donna l'ordre de la retraite. Puis, se précipitant de nouveau dans la mêlée, il fraya le chemin à ses hommes. Sa foudroyante épée tint pendant quelques minutes les soldats en respect, et les Saxons, secondant les intentions de leur chef, gagnèrent peu à peu la cour du hall. Réunis dans un seul corps et se battant en désespéré, ils parvinrent à franchir les portes du château, déjà mises en état de résister aux attaques d'un siège. Les Normands s'élancèrent sur les portes la hache à la main, mais ces portes, en chaînes massives, résistèrent à leurs efforts. Alors, ils se mirent à rôder autour du vaste bâtiment dans l'espoir de découvrir une entrée mal défendue. Mais leur recherche, d'abord inutile, devint bientôt dangereuse, car les Saxons jetaient du haut des fenêtres d'énormes pierres et les accablaient de flèches. Le capitaine normand, effrayé du ravage que faisaient parmi ses hommes les projectiles lancés par les assiégés, les rappela à lui et, après en avoir placé une centaine autour du hall, il descendit au village. Comme on le sait, les maisons de Gamouel étaient vides. Les soldats, autorisés par leur chef, fouillèrent les habitations. Mais à leur grande mortification, ils les trouvèrent non seulement désertes, mais encore vides de tout butin et de toute provision de bouche. Comptant sur les ressources d'une prompte victoire, ils n'avaient point apporté de vivres, aussi étaient-ils dans un grand embarras. Ils témoignèrent leur mécontentement. Aussitôt, le chef expédia dans la forêt une douzaine d'hommes réputés bons chasseurs afin d'y tenter la prise de quelques cerfs. La chasse fut couronnée de succès. Les affamés se rassasièrent et le capitaine, qui avait établi son camp dans le village, fit prendre du repos à une moitié de sa troupe, tandis que l'autre préparait les armes pour une attaque nocturne contre le bâtiment qui abritait les Saxons. Plus heureux que leurs ennemis, les paysans avaient fait un excellent repas et s'étaient livrés au sommeil après avoir relevé les morts et donné des soins aux blessés. À la chute du jour, une éclatante lueur vint annoncer aux Saxons la nouvelle manœuvre de leur ennemi, le village était en feu. « Voyez, mon cher petit Jean, dit Robin Hood en montrant au jeune homme la lugubre clarté, les misérables brûlent sans miséricorde les chaumières de nos paysans. » Et ils mettront le feu au hall, mon ami, répondit Petit Jean avec tristesse. Il faut nous préparer à subir ce nouveau malheur. La vieille maison est entourée de bois, elle brûlera comme une botte de paille. Comme vous dites cela tranquillement, s'écria Robin, n'est-il donc pas possible de prévenir cette odieuse tentative? Nous emploierons tous les moyens qui se trouvent en notre pouvoir, mon cher Robin. Mais ne vous faites pas illusion, le feu est un ennemi difficile à vaincre. « Regardez, Jean, voilà encore une autre chaumière qui brûle. Ils veulent donc incendier tout le village ?»« En avez-vous douté un seul instant, mon pauvre Robin ?»« Oui, ils détruiront notre cher Gamouel, et lorsqu'ils auront achevé là-bas leur œuvre de démon, ils viendront essayer de mettre le feu ici. » Les paysans, désespérés, considéraient ce spectacle en jetant des cris d'indignation. Ils voulaient sortir du hall et satisfaire à l'eux-mêmes l'âpre désir de vengeance qui les mordait au cœur. Mais Petit Jean, prévenu par un de ses cousins, accourut au milieu d'eux et leur dit d'une voix émue « Je comprends votre fureur, mes chers garçons, mais de grâce, attendez. Si nous pouvons nous défendre seulement jusqu'au point du jour, nous serons vainqueurs. Attendez, attendez, dans un quart d'heure, les misérables seront ici. » « Les voilà !» dit Robin. En effet, les Normands s'avançaient vers le château en jetant de grands cris et en portant à deux mains des tisons enflammés. « À vos postes, enfants, à vos postes !» cria le neveu de Sir Guy. « Dirigez vos flèches avec attention, visez avec soin et ne perdez aucun de vos coups. Quant à vous, Robin, restez auprès de moi, vous frapperez de mort ceux que je vous désignerai. » Les Normands entourèrent le château et, tout en se tenant à distance des fenêtres et des barbacanes, ils lancèrent contre la porte des torches allumées. Mais ces torches, aussitôt atteintes par les torrents d'eau que versaient les paysans, s'éteignaient sans faire aucun mal. Le feu fut suspendu et une sorte de joyeux rugissement poussé par les soldats appela Petit Jean et Robin à une fenêtre. Précédé du chef, une dizaine de soldats traînaient un instrument qui, selon toute probabilité, devait servir à enfoncer la porte. Au moment où, sous la direction de leur capitaine, les Normands allaient établir la machine à la place qu'elle devait occuper, Petit-Jean dit à Robin « Envoyez donc une flèche à ce maudit capitaine !»«
Je le veux bien, mais il sera difficile de l'atteindre mortellement, car il est revêtu d'une cotte de mailles et il faudrait pouvoir l'atteindre à la figure. »«
Attention, dit Jean, préparez votre arc !»« Tirez, mon cher Robin, mais tirez donc !» Voilà son visage sous la lueur de la torche. La mort de cet homme nous sauvera.
Robin, qui suivait les mouvements du chef, tira tout à coup. La flèche partit. Le capitaine, frappé entre les deux sourcils, tomba en arrière. Les soldats éperdus se pressèrent confusément autour de leur chef et un épouvantable désordre se mit dans les rangs.
« Maintenant, Saxon, cria Jean d'une voix vibrante, envoyez une volée de flèches sur les incendiaires. »
Cette nouvelle décharge fut tellement écrasante que les soldats restés debout se sentirent perdus. Ils allaient fuir lorsqu'un Normand, se plaçant de sa propre autorité à la tête de ses compagnons, leur proposa d'employer un dernier moyen pour contraindre les paysans à sortir de la forteresse. Un bosquet d'arbres, principalement composé de pins, se trouvait placé vis-à-vis de la façade intérieure du château, c'est-à-dire du côté des jardins. Les Normands, conduits par leur nouveau chef, scièrent à demi le tronc des arbres les plus rapprochés de la toiture du bâtiment, après en avoir au préalable enflammé les hautes branches. Petit-Jean, qui surveillait avec angoisse les rapides progrès de cette infernale destruction, laissa bientôt échapper un cri de fureur et dit à Robin «
Ils ont trouvé le moyen de nous obliger à sortir. Les arbres vont incendier le toit et dans quelques instants, le château sera enveloppé de flammes. » « Robin, faites tomber les porteurs de torches, et vous, mes amis, n'épargnez pas vos flèches. À bas les loups normands, à bas les loups !»
Les arbres, rapidement embrasés, tombèrent sur la toiture avec un bruit épouvantable et une lueur rouge couronna bientôt le dôme du château. Petit-Jean rassembla ses hommes dans la grande salle, les divisa en trois parties, se mit avec Robin Hood à la tête de la première, donna au moine Tuck le commandement de la seconde, confie à la troisième, à la direction du vieux Lincoln, et chacune de ces bandes se prépara à sortir du hall par une porte différente. Sir Guy avait assisté d'un air impassible aux préparatifs de ce départ. Mais quand son neveu vint l'engager à quitter la salle avec lui, le vieux baronet s'écria « Je veux mourir sur les ruines de ma maison !»
Petit-Jean, Robin et les jeunes Gamwell supplièrent vainement le vieillard. Vainement, ils lui montrèrent la flamme empourprée qui jetait dans la salle une sanglante lueur. Vainement, ils lui parlèrent de sa femme, de ses filles. Le vieux Saxon restait sourd à leurs prières, insensible à leurs larmes.
« Alerte, alerte !» cria soudain Robin Hood. « La toiture va tomber !»
Petit-Jean saisit son oncle, l'entoura de ses bras et, malgré les plaintes du vieillard, malgré ses lamentations, il l'emporta hors de la salle. À peine les Saxons eurent-ils franchi les portes du hall qu'un bruit sinistre se fit entendre. Les étages, surchargés par la chute du toit, s'effondrèrent les uns après les autres et la vieille demeure seigneuriale lança par les ouvertures des trombes de flammes et de fumée. Petit-Jean confia Sir Guy à la garde de quelques hommes déterminés et leur ordonna de prendre en toute hâte le chemin du Yorkshire. L'esprit tranquille de ce côté-là, l'invincible Petit-Jean s'arma une fois encore de sa triomphante épée et s'élança sur l'ennemi en criant «
Victoire ! Victoire ! Demandez grâce, demandez merci !»
L'apparition de Tuck, vêtu de sa robe de moine, jeta une terreur panique parmi les Normands. Pas un seul n'osa se défendre contre un membre de la Sainte Église et saisis d'un soudain effroi, ils s'élancèrent, poursuivis par les Saxons, vers l'endroit où stationnaient les chevaux, se mirent lestement en selle et s'éloignèrent à franc étrier. Des 300 Normands arrivés le matin, il en restait à peine 70. Les villageois, enivrés de leur victoire, entouraient Petit-Jean, qui, après avoir fait recueillir les blessés et les morts, parla ainsi à ses compagnons.
« Saxon, vous avez donné la preuve aujourd'hui que vous étiez digne de porter ce noble nom. » Mais hélas, en dépit de votre vaillance, les Normands ont atteint leur but. Ils ont brûlé vos chaumières, ils ont fait de vous de pauvres bannis. Votre séjour ici est désormais impossible.
Bientôt, une nouvelle troupe de soldats enveloppera ces ruines, il faut donc vous en éloigner. Il nous reste encore un moyen de salut, la forêt nous offre un asile. Quel est celui de vous, enfant ? Quel est celui de vous, enfant, qui n'a pas dormi sur la mousse du bois et sous le rideau ondoyant des vertes feuilles et des grands arbres ? Allons dans la forêt ! Allons dans la forêt ! Crièrent plusieurs voix. Oui, allons dans la forêt, répéta Petit-Jean. Nous y vivrons ensemble, nous travaillerons les uns pour les autres. Mais pour que notre bonheur puisse s'appuyer sur la sécurité d'une constante harmonie, il faut vous nommer un chef. Un chef ? Alors ce sera vous, Petit-Jean. Hurrah pour Petit-Jean ! Répondirent les vassaux d'une voix unanime. Mes chers amis, reprit le jeune homme, je vous remercie infiniment de l'honneur que vous voulez me faire, mais je ne puis l'accepter. Permettez-moi de vous présenter sur le champ celui qui est digne d'être placé à votre tête. Où est-il ? Où est-il ? Le voici, dit Jean en posant sa main sur l'épaule de Robin Hood. Robin Hood, mes enfants, est un véritable Saxon, de plus il est brave. Sa discrétion et son jugement égalent la sagesse d'un vieillard. Vous voyez en Robin Hood le comte de Huntingdon, le descendant de Waltheof, fils bien-aimé de l'Angleterre. Les Normands, qui lui ont volé ses biens, lui disputent encore ses titres de noblesse. Le roi Henri a proscrit Robin Hood. Maintenant, mes garçons, répondez à ma demande. Voulez-vous pour chef le neveu de Sir Guy de Gamwell, le noble Robin Hood ? Oui, oui ! S'écrièrent les paysans, flattés d'avoir pour chef le comte de Huntingdon. Le cœur de Robin Hood bondissait de joie, ses plans secrets avaient donc enfin une espérance de réalisation. Il se sentait fier et, disons-le, il se savait digne de remplir la difficile mission qui lui était dévolue par la tendresse de son ami. Après avoir promené sur les Saxons un regard étincelant, il se découvrit et, la main appuyée sur le bras de Petit-Jean, il dit d'un ton ému « Mes amis, je suis heureux de voir que vous m'acceptez pour chef et je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Je ferai, soyez-en certains, tout ce qui dépendra de moi pour mériter votre estime et votre affection. Ma jeunesse pourrait être pour vous un sujet de crainte et de méfiance si je ne prenais le soin de vous dire que mes pensées, mes sentiments et mes actions sont ceux d'un homme qui a souffert et par conséquent d'un homme fait. Vous trouverez en moi un frère, un compagnon, un ami, un chef dans les cas de nécessité absolue. Je connais la forêt, notre future demeure, et je m'engage à vous y trouver un asile sûr, à y rendre votre existence heureuse et agréable. Le secret de cet asile ne devra jamais être confié à personne. Nous serons nos propres gardiens et il sera nécessaire de se montrer discret et prudent. Préparez-vous au départ, je vais vous conduire dans une retraite inaccessible à nos ennemis. Encore une fois, chers frères saxons, je vous remercie de votre confiance. Elle sera méritée, je serai avec vous dans le malheur aussi bien que dans le bonheur. » Les préparatifs de départ furent bientôt faits, les Normands n'avaient rien laissé aux malheureux proscrits. 3 heures après, Robin Hood et Petit-Jean, accompagnés des villageois, pénétraient dans une cave spacieuse située au centre de la forêt. Cette cave, parfaitement sèche, avait à son plafond de larges ouvertures qui permettaient à l'air et à la lumière de circuler librement dans toute son étendue. « En vérité, Robin, dit Petit-Jean, moi qui connais le bois aussi bien que vous, je suis émerveillé de votre découverte. Comment se peut-il faire que la forêt de Sherwood possède une demeure aussi confortable ?»« Il est probable, répondit Robin, qu'elle a été construite sous Guillaume Ier par des réfugiés saxons. » Quelques jours après l'installation de nos amis dans la forêt de Sherwood, deux hommes de leur bande, qui étaient allés faire des emplettes à Mansfeld, apprirent à Robin qu'une troupe composée de 500 Normands avait, ne pouvant mieux faire, achevé de démolir les murailles de l'hospitalière maison qui avait été le hall de Gamwell.